tonto.
Le métal fait son show sur Pac FM. Bienvenue dans l'émission Check Me Load pour ce deuxième épisode des Summer Sessions. Et oui, cette année, Check Me Load va en effet exceptionnellement vous accompagner une partie de l'été pour rattraper un peu du temps perdu durant le confinement qui nous avait obligés à suspendre les émissions durant quand même plus de deux mois. Deux mois qui ont été riches en sorties d'albums. Ces Summer Sessions de Check Me Load seront donc l'occasion idéale pour vous proposer des nouveautés parues entre mi-mars et maintenant, voire même peut-être au-delà. On ira peut-être faire un petit tour sur le mois d'août. En tout cas, en ce qui concerne la sélection de ce vendredi 17 juillet, elle sera relativement variée avec du heavy, du black, du hard rock ou encore du hardcore. Je vous propose d'ailleurs de lancer sans plus tarder les hostilités avec la sortie du jour, car il y en a une et elle nous vient tout droit d'Allemagne. Ce 17 juillet sort effectivement le nouvel album de Yudo intitulé Steel Factory et il est un petit peu particulier cet album, je vais vous expliquer tout ça, mais avant je vais quand même vous raconter un petit peu l'histoire de Yudo. Certains connaissent, d'autres peut-être pas. Donc déjà, Yudo est un groupe originaire de Solingen, créé il y a bien longtemps, en 1987, et c'est en fait le chanteur Yudo Dirkschneider qui en est à l'origine. À cette époque-là, Yudo vient de se séparer du groupe Accept, avec qui il a connu la célébrité, une célébrité mondiale. Mais en ce milieu des années 80, Yudo et les autres membres du groupe sont sur de grosses divergences musicales, donc lui va préférer partir de son côté, créer ce groupe Yudo, avec le but justement de continuer dans un style purement heavy qui avait fait les grandes heures d'Accept, à un moment où les autres membres, eux, désiraient évoluer vers un son beaucoup plus mélodique. Alors, malgré tout, le chanteur va garder d'excellents rapports avec les membres de son ex-groupe. Certains vont même lui donner un coup de main pour la composition de Animal House, le premier album de Yudo qui paraît en 88, qu'on peut considérer avec son successeur Mean Machine qui arrive l'année suivante, un peu comme la suite logique de Russian Roulette d'Accept, qui était sorti lui en 1986, si je dis pas d'annerie. Après un Faceless World moins agressif et plus accessible qui sort lui en 90 et qui sera le plus gros succès commercial de Yudo, le chanteur, qui est quand même pas très satisfait de sa nouvelle direction musicale, va remettre tout le monde au pas avec Time Bomb en 91. Un quatrième album de speed metal sans concession, largement influencé par le Painkiller de Judas Priest. Alors ensuite, le chanteur Yudo Dirkschneider naviguera pas mal de temps entre Accept, où il reviendra et repartira, et puis Yudo. Mais désormais, c'est bien ce dernier groupe qui est son seul et unique projet. Avec Yudo, il a quand même sorti pas moins de 17 albums studio depuis 1987. Des albums qui ont d'ailleurs acquis en qualité ces dernières années, depuis que le chanteur semble enfin avoir définitivement tourné la page avec Accept. Alors parmi ses dernières réussites, on compte par exemple Steam Hammer, qui était paru en 2013, ou encore Steel Factory, paru en 2018, qui était jusqu'à aujourd'hui son dernier album en date, puisque il est donc de retour avec ce nouvel opus intitulé We Are One. Et justement, il n'est pas tout seul, hein, puisque le disque a été écrit et enregistré en collaboration avec l'orchestre des forces armées allemandes, qui s'appelle le Musikkorps der Bundeswehr, et qui est composé de 60 musiciens dirigés par le lieutenant-colonel Christoph Schliebling. Alors, évidemment, le projet a de quoi surprendre, hein, et pourtant, bah, le résultat est vraiment plutôt bien réussi. Si les collaborations entre un groupe de métal et un orchestre sont quand même assez monnaie courante, hein, faut bien le dire, le fait de s'associer à l'armée d'un pays, c'est quand même beaucoup plus singulier. Alors, c'est vrai que quand on pense orchestre de l'armée, on a tout de suite en tête la Marseillaise jouée par les musiciens de l'armée française pendant la cérémonie du 14 juillet, et malgré tout le respect que je leur porte, ça reste de la fanfare. Du coup, sur le papier, ce nouveau projet qui est We Are One, moi, ça m'a plutôt laissé perplexe. Eh ben, j'ai eu tort, hein, parce que les orchestrations et les arrangements sont extrêmement soignés, extrêmement réfléchis. Les compositions sont de très belles factures, bien adaptées à un tel projet. Et puis, la réalisation est très bien équilibrée entre les instruments dits rock et les instruments classiques, ce qui donne une puissance et une profondeur assez incroyables au morceau, et aussi au chant de Yudo, hein, qui d'ailleurs à plusieurs moments partage son micro avec une sublime voix féminine. À tout ça, ajoutons des compos aux sonorités et aux atmosphères variées, et on obtient ce We Are World, qui est une très belle surprise de ce milieu d'été. En voici d'ailleurs un extrait avec le morceau titre We Are World. Tout de suite, c'est Yudo avec l'orchestre de l'armée nationale allemande. One de Yudo sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load, dans les Summer Sessions, ces petites émissions de rattrapage pour rattraper un peu du temps perdu durant le confinement. Et donc Yudo qui sort aujourd'hui ce nouvel album intitulé également We Are One, enregistré en collaboration avec l'orchestre des forces armées allemandes. C'est un projet très singulier que je vous invite à découvrir parce que franchement c'est très très réussi. Et Yudo qui a une très très longue carrière derrière lui maintenant, eh bien, a encore de quoi nous surprendre, et ça, c'est plutôt cool. On change de style, on change de pays, puisque de l'Allemagne, on s'envole vers les États-Unis. Alors là encore, avec un groupe qui a une longue carrière derrière lui, mais qui a eu une grosse période de trouble, une période de 20 ans où il s'est rien passé ou quasiment rien, ce groupe, c'est Cro-Mags, qui a enfin sorti un nouvel album le 19 juin dernier, un album qui s'appelle In the Beginnings. Alors Cro-Mags, c'est un groupe new-yorkais qui est né en 1980. Il est né dans les squats, en fait, sous l'impulsion du chanteur, bassiste et principal compositeur Harley Flanagan. Bien évidemment, entre la naissance du combo et aujourd'hui, le line-up a énormément changé, même s'il est quand même assez stable depuis une vingtaine d'années. Actuellement, il se compose donc de Flanagan, qui en est toujours le frontman. Aux guitares, vous avez Gabby Abularach et Rocky George, qui lui a fait partie il y a quelques années de Suicidal Tendencies et de Fishbone. Vous avez Gary Sullivan qui est à la batterie, le groupe évolue sous forme de quatuor. Et avec Cro-Mags, eh bien, on est sur un punk hardcore crossover trash. On peut même dire que Cro-Mags, c'est un pionnier en matière de crossover, puisqu'il sera un des premiers à oser mélanger du punk et du heavy metal sur son premier album, ce qui va influencer pas mal de formations, comme par exemple Biohazard ou Vision of Disorder, qui, comme Cro-Mags, sont originaires de New York. Et ce premier album donc qui va innover en matière de crossover, c'est The Age of Quarrel, qui sort en 86, un disque qui va avoir un fort impact autant chez les médias que chez les fans de punk. Et d'ailleurs, même MTV va diffuser le clip d'un des morceaux extraits de ce premier opus, qui figure aujourd'hui parmi les classiques du genre. Fort de ce premier succès, Cro-Mags va enchaîner en 89 avec l'album Best Wishes, qui est plutôt réussi, contrairement à ses deux successeurs, Alpha Omega en 92 et Near Death Experience en 93, qui eux vont pas laisser, il faut le dire, un souvenir impérissable. Alors, à ce moment, le combo qui peine à évoluer et à se renouveler va décider de se séparer, avant de finalement réapparaître en l'an 2000 avec un album qui s'appelle Revenge, qui va recevoir un accueil quand même assez mitigé. L'heure de la revanche n'a encore pas sonné à ce moment-là pour Cro-Mags, qui disparaît de nouveau des écrans radars jusqu'en 2019. Alors effectivement, ça fait à peu près un an, Flanagan a annoncé le retour prochain du groupe dans les bacs. À cette occasion, ils avaient même publié quelques titres, et puis surtout le groupe avait fait son retour sur scène avant la parution de ce nouvel album. Le voici enfin, ce In the Beginning, il est là depuis un petit mois et il sonne cette fois-ci comme un nouveau départ pour Cro-Mags, qui n'avait plus rien sorti depuis 20 ans donc, et je pense pas me tromper en affirmant que cette fois-ci c'est la bonne pour le gang de New York, qui inscrit cette nouvelle salve dans la droite lignée de ses meilleures productions, à savoir ses tout premiers albums. Alors bien évidemment, sans être révolutionnaire, à part peut-être dans les paroles, In the Beginning, c'est un concentré de groove et de rage dont les morceaux retentissent comme autant d'appels au pogo et au mosh pit. Les guitares flamboyantes de l'excellent Rocky George, aussi à l'aise dans l'art du riff que dans l'art du solo, nous replongent même à plusieurs reprises à la grande époque de Suicidal Tendencies. Avec ce sixième album, Cro-Mags signe enfin le retour gagnant qu'il attendait depuis deux décennies. Quand on connaît les démêlés de Flanagan, avec la justice notamment, on peut dire que le groupe provient de loin. On écoute sans plus tarder un extrait de In the Beginning avec le morceau From the Grave. Oh! Rags sur Back FM dans l'émission Check Me Load, les Summer Sessions. Vous venez d'écouter le morceau From the Grave, cet extrait du nouvel album qui s'appelle In the Beginning, paru le 19 juin. Cro-Mags, hein, qui je le rappelle, n'avait plus rien sorti depuis l'an 2000, 20 ans donc entre leur dernier album en date jusqu'à présent, qui était pas franchement très réussi, et ce nouvel opus qui lui vaut vraiment le détour. Donc, amateurs de punk hardcore, de crossover, voici un album à rajouter dans vos petites playlists. On change encore une fois de pays et de style. Là, on va revenir sur l'Europe. On va partir du côté de la Scandinavie pour retrouver un groupe. Alors, qui, comme Cro-Mags, a eu une carrière assez chaotique, avec plus de réussite quand même que Cro-Mags. Eux, il s'agit de End Oceans. Et le 8 mai, End Oceans a sorti Cosmic World Mother. Eux, ça faisait 18 ans qu'ils n'avaient rien sorti. Du moins, sous ce nom-là, faut que j'éclaircisse un peu tout ça parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, End Oceans, c'est un groupe qui est originaire de Helsinki, qui a été formé en 1989, mais il va pas s'appeler End Oceans tout de suite. D'abord, il va s'appeler Festerday. Ils vont sortir sous ce nom-là quelques démos, un premier album, et puis finalement ils vont devenir End Oceans en 1995. C'est d'ailleurs à l'occasion d'un changement de style que le groupe choisit de changer de nom. Ses premières productions sont en effet à classer dans le genre death metal mélodique, donc ça c'est à l'époque Festerday, et en devenant End Oceans, la formation fait son entrée au sein de la scène black symphonique, parfois même à la limite du metal avant-gardiste, et ça va pas s'arrêter là, puisqu'après avoir sévi 10 ans au sein de la scène black, eh bien, End Oceans va encore une fois changer de nom. Ils vont s'appeler cette fois-ci Havoc Units et ils vont devenir un groupe de metal indus. Cette parenthèse metal indus, elle va durer une dizaine d'années. Elle va se refermer avec le retour officiel, de End Oceans et de son Black Symphonic en 2017. Alors j'espère que vous avez tout compris car c'est un petit peu compliqué de suivre nos amis finlandais. Donc si vous le voulez bien, ce que je vous propose c'est qu'on laisse de côté les albums de Festerday et de Havoc Units pour se concentrer vraiment sur la discographie de End Oceans. Alors elle se compose de 3 démos, un split album avec les Norvégiens de Bootthorn, un EP et 5 albums studio. Le dernier c'est donc celui qui est sorti en mai, qui s'appelle Cosmic World Mother, un 5e album qui paraît, je l'ai souligné tout à l'heure, 18 ans après son prédécesseur qui s'appelait Cipher, qui était paru donc en 2002, et qui annonçait d'ailleurs le virage Metal Indus que le groupe s'apprêtait alors à prendre. Mais revenons donc à l'actu du combo et à ce nouvel album. Un album qu'ils nous promettaient dans la veine de son style originel, eh bien, ils ont tenu parole, ils ont même fait mieux que ça, car si Cosmic World Mother reprend là où End Oceans nous avait laissé pour de nouvelles contrées sonores, c'est dans une vision totalement actuelle et moderne. Alors, ce qui peut paraître logique, puisqu'il y a presque 20 ans qui sont écoulés entre les deux albums, avec en plus une technologie qui n'a cessé d'évoluer en matière d'enregistrement, mais qui n'est pas non plus forcément une évidence, puisque certaines formations font parfois le choix d'un son à l'ancienne. Eh bien, c'est pas le cas de End Oceans, qui nous revient dans une version 2.0, sans rien perdre de son univers sombre et glacial, qui nous mène sur des chemins tortueux qui relient les abysses au cosmos. Cosmic World Mother, c'est un album riche, fort et puissant, qui marque un retour gagnant pour End Oceans, dont le micro est d'ailleurs désormais tenu par Vress, le frontman du groupe de folk metal Fintroll. Voici donc sans plus tarder un extrait de Cosmic World Mother avec un morceau qui s'appelle Vigilance and Atrophy. C'est tout de suite, c'est sur Back FM. Yeah! Vous êtes sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le groupe And Oceans avec le morceau Vigilance and Atrophy, un extrait du nouvel album du groupe qui s'intitule Cosmic World Mother, qui est paru donc début mai et qui arrive 18 ans après le dernier album en date du groupe. Un très bel album que je vous conseille si vous êtes amateur de Black Symphonic. C'est un des incontournables de cet été dans le style. On va rester dans des influences extrêmes, mais pour aller s'intéresser maintenant à la scène death, avec un groupe tout à fait singulier et tout à fait admirable. Il s'agit du groupe Vampire, qui a sorti le 19 juin un nouvel album intitulé Rex. Alors Vampire, c'est un groupe qui nous vient de Suède, de Göteborg précisément, qui a été créé en 2011 autour du chanteur End of Doom, qui est un ex-membre de The Legion, le guitariste Blackstring, le bassiste Command et le batteur Ratwing. Un line-up qui a un petit peu évolué en 2014 avec l'arrivée de Sepulchral Condor à la seconde guitare et puis d'Abysmal Condor à la batterie, donc en remplacement de Ratwing. Pour ce qui est du style de Vampire, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est du death metal aux fortes influences thrash qui rappellent les grandes heures du genre. Le groupe est très influencé aussi par le cinéma d'horreur et puis par le gore. Un petit peu dans le même trip que Morbus Crown, Miasmal ou Tribulation, Vampire va avoir un impact énorme sur la scène death dès sa première démo, qui sera assez vite suivie d'un premier album éponyme, qui lui arrive en 2014, et là, le combo ira puiser au plus profond des racines malsaines du métal, tout en proposant une œuvre assez inédite, avec notamment une approche originale de la composition. Semblant sortir tout droit du fond de la crypte, Vampire nous proposait un premier album des plus aboutis et des plus prometteurs, des espoirs qui ne feront que se confirmer avec la sortie du très réussi With Primeval Force en 2017. Et donc, nos vampires suédois en ont encore visiblement sous les canines, comme le prouve ce nouvel opus qui s'appelle Rex, qui est paru mi-juin et qui pousse la barre un cran encore plus loin. Derrière une production au son bien glauque et crasseux mais totalement maîtrisé, Vampire a su avec ce nouvel opus mettre en avant toute sa dimension mélodique, ce qui donne à l'album un petit côté nostalgique qui ravira les amateurs de métal extrême des années 80-90. Je pense notamment aux fans de Mercyful Fate. Concernant le concept de l'album, eh bien il s'intéresse à différentes religions aujourd'hui disparues et les chansons s'enchaînent de manière à ce qu'il y ait une sorte de progression tout au long du disque qui se clôt en apothéose, presque comme une messe finalement. Ce disque, il est à la fois beau, intense et empreint d'une certaine mélancolie, ou bien est-ce de la nostalgie, je ne sais pas. En tout cas, Vampire brille encore une fois par son talent et son intelligence. Rex est un nouveau chef-d'œuvre dans la discographie parfaite des Suédois. En voici d'ailleurs un extrait avec le morceau titre Rex. C'était le groupe suédois Vampire à l'instant avec le morceau Rex, extrait de l'album du même nom, un album paru mi-juin et surtout un album qui ravira les fans de death metal, plutôt à l'ancienne d'ailleurs, un groupe qui joue un petit peu sur la nostalgie. En tout cas, c'est très très bien et puis je vous invite aussi à aller découvrir les deux premiers albums du groupe qui sont également excellents. On referme cette page métal extrême pour revenir à des sonorités plus hard rock et on va maintenant aller du côté du Pays de Galles avec le groupe Buffalo Summer. Et là, on va remonter un peu dans le temps puisque c'est un album qui est sorti le 27 mars, un album intitulé Desolation Blue. Donc, Buffalo Summer, c'est un groupe originaire de la ville galloise de Nice. Ça s'écrit N-E-A-T-H. Le groupe existe depuis 2010. Il a été créé par 4 musiciens. Donc on a d'un côté les frères Hunt avec Andrew au chant et Gareth à la batterie. Et puis d'un autre côté, 2 de leurs amis, Johnny Williams à la guitare et Darren King à la basse. Alors eux, leur style musical, c'est un hard rock aux accents south rock, bluesy et post-grunge. Buffalo Summer se définit d'ailleurs comme étant un groupe de rock gallois issu de la classe ouvrière qui aurait grandi sous la pluie de Seattle. Je trouve que ça résume de façon très poétique, mais très bien aussi l'univers musical du groupe, qui revendique d'ailleurs des influences très larges, hein, puisque ça va de Led Zepp à Jack White, en passant par Free, Whitesnake, The Black Crowes ou encore Alice in Chains. Après un premier album éponyme autoproduit en 2013, Buffalo Summer avait sorti en 2016 le très remarqué Second Sound, produit d'ailleurs par Barrett Martin, qui est connu pour son travail avec les Screaming Trees, REM, les Queen of the Stone Age aussi. Et le but de ce deuxième album, c'était de séduire les fans de rock et de hard rock dit revival, assez à la mode à ce moment-là, mais aussi d'offrir au public une musique qui transpire le blues et qui se vit sur scène. L'album avait été largement salué par les médias et Buffalo Summer en avait profité pour s'offrir une longue et belle tournée de promotion. Mais quand même, il y avait quelques mauvaises langues qui, à l'époque, avaient reproché au groupe, justement, son trop-plein d'influence qui était quand même assez omniprésente. Aujourd'hui, elles peuvent ravaler leur venin, hein, car Desolation Blues, qui est paru fin mars, a su faire du tri dans tout ça pour enfin permettre à Buffalo Summer d'affirmer son univers et sa propre identité sonore. On oublie un peu le côté hard rock revival des 70s pour un hard rock plus moderne, plus solide et plus varié aussi. Barrett Martin, qui est de nouveau aux manettes, a su aider nos Gallois à trouver le son adéquat finalement pour que notre jeune combo cesse de trop regarder le passé pour aller de l'avant. Et d'ailleurs, en parlant d'aller de l'avant, au vu de la qualité des compos de ce nouvel opus, mais aussi des musiciens, hein, Buffalo Summer, c'est un groupe qui est promis à un bel avenir. Desolation Blues, c'est un album brillant qui va ensoleiller votre été. En voici un extrait avec le morceau Hit the Ground Running. Voici tout de suite Buffalo Summer dans Check Me Load. We'll be right back. Hit the Ground Running de Buffalo Summer dans l'émission Check Me Load, les Summer Sessions sur Back FM. Buffalo Summer qui a donc sorti son troisième album Desolation Blue le 27 mars dernier pour les amateurs de bon hard rock, mais aussi pour ceux qui aiment quand les albums sont bourrés de belles influences. Eh bien, c'est un disque à découvrir absolument. Il est disponible dans à peu près tous les formats, donc voilà, vous avez plus qu'à faire ajouter à votre petite playlist pour ensoleiller votre été par la musique de nos Gallois. Intéressons-nous maintenant à un des Guitar Heroes les plus célèbres de ces 30 dernières années. Nous allons en effet nous intéresser au nouvel album de Joe Satriani paru le 10 avril qui s'appelle Shape Shifting. Alors pour rappel, Joe Satriani c'est un Guitar Hero américain, il est né du côté de New York en 1956 et c'est le 18 septembre 1970 lorsqu'il apprend la mort de Jimi Hendrix et découvre sa musique que le jeune Joe, qui étudie alors la batterie, décide que son avenir sera consacré à la guitare. D'abord professeur à la célèbre école de Berkeley, où il voit passer des élèves prestigieux comme Steve Vai, Kirk Hammett, Alex Skolnick de Testament ou Larry Lalonde de Primus, Satriani débute sa carrière solo au milieu des années 80. Son premier album, c'est Not of This Earth, qui sort en 86. Alors il va passer relativement inaperçu, hein, il faut bien l'avouer, contrairement aux trois suivants. Tout d'abord Surfing with the Alien, qui paraît en 87, puis Flying in the Blue Dream en 89 et enfin The Extremist en 92, trois albums qui feront de Satch, comme on le surnomme, une véritable gloire de la six-cordes. Surfing with the Alien sera d'ailleurs un tel succès qu'il sera certifié disque de platine aux États-Unis. C'est un album totalement culte pour tout amateur de Guitar Heroes. En marge de sa carrière solo, Joe Satriani s'est également illustré dans différents projets tels que G3, où il partage la scène avec deux autres Guitar Heroes, ou plus récemment avec le supergroupe Chicken Foot, avec lequel il a sorti deux albums studio et un live, sans oublier ses nombreuses autres collaborations avec divers artistes de la scène rock internationale. Pour ce qui est de sa carrière solo, les dernières productions de Satriani sont loin d'avoir laissé un souvenir impérissable, jusqu'à la sortie en 2015 de Shockwave Supernova, un album énergique et bien produit qui marquait enfin le retour aux affaires de Satch, qui continuait d'ailleurs sur cette belle lancée avec What Happens Next en 2018, à l'occasion duquel il avait formé un power trio de choc et de légende constitué de lui bien évidemment, mais aussi du bassiste Glenn Hughes qu'on a vu dans Deep Purple, dans Black Country Communion, et du batteur Chad Smith des Red Hot Chili Peppers. Alors maintenant, qu'en est-il de Shape Shifting, son nouvel opus? Satch a-t-il toujours le feu sacré? Eh bien oui, ce 17e album est même plutôt réjouissant, avec à la fois les codes guitaristiques typiques qui ont fait la gloire de Satriani depuis plus de 30 ans, mais aussi quelques surprises en matière de jeu et d'influence qui parsèment l'album, sans nous dépayser. Rendant même presque hommage parfois à Surfing with the Alien, Satch nous surprend en nous emmenant vers de nouvelles frontières musicales, et ça, c'est super agréable. Alors évidemment, ce genre d'album s'adresse principalement à un public de guitaristes qui aiment s'extasier devant la technicité et la vélocité de notre Satch, public dont j'avoue faire partie, mais même sans pratiquer la six cordes, je pense que chacun peut y trouver son petit riff qui va lui coller à l'oreille. On va donc écouter Joe Satriani avec le morceau 1980, qui est en quelque sorte le single de ce Shape Shifting paru au mois d'avril. Voici tout de suite Joe Satriani. We'll be right back. 1980 de Joe Satriani à l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. C'est un extrait de l'album Shape Shifting paru au mois d'avril. Nouvel album donc pour notre guitare héros américain. Un album, comme je le disais tout à l'heure, plutôt destiné à un public de guitaristes. Mais voilà, si vous aimez les belles guitares sans forcément pratiquer l'instrument, allez-y. Il y a de quoi se faire plaisir, même si c'est en piochant un ou deux morceaux par-ci. Par là. Voilà, on va s'arrêter là pour la sélection de nouveautés de ce deuxième épisode des Summer Sessions de Check Me Load, et on va passer à la rubrique finale, la rubrique Sortez Cover, qui conclut chaque semaine l'émission sur un air de reprise. Et la chanson que j'ai sélectionnée aujourd'hui, elle va nous faire faire un long voyage dans le temps, puisque c'est une chanson traditionnelle qui date d'il y a quelques siècles, qui a été popularisée au début des années 70 par Thin Lizzy, version qui a elle-même été revisitée de façon magistrale par Metallica à la fin des années 90. Ce morceau, vous l'avez sans doute deviné, c'est Whiskey in the Jar. Donc, commençons, si vous le voulez bien, par le commencement. Whiskey in the Jar, c'est quoi ? Eh bien, c'est une célèbre chanson traditionnelle irlandaise, alors qui date probablement du 17e ou du 18e siècle, mais ça, on n'en est absolument pas sûr. Les théories sont diverses. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle raconte l'histoire d'un bandit irlandais qui sévit dans les montagnes des comtés de Cork et de Kerry, et qui va être trahi par celle qu'il aime. Whiskey in the Jar, c'est certainement la chanson traditionnelle irlandaise la plus jouée et la plus célèbre à travers le monde. Elle est notamment extrêmement populaire aux États-Unis, où elle a été apportée dans les valises des immigrés irlandais. Du coup, la culture populaire va rapidement s'en emparer. Et à partir des années 50, de nombreux artistes vont commencer à l'enregistrer. Ce sera d'ailleurs les Dubliners qui vont la populariser une première fois à travers le monde à la fin des années 60. Mais c'est la version hard rock de Thin Lizzy qui va devenir culte, que tout le monde va retenir. Elle va d'ailleurs largement contribuer à l'énorme popularité que va connaître la mythique formation de Dublin menée par le charismatique Phil Lynott, disparu bien trop tôt. Whiskey in the Jar version Thin Lizzy sort donc en 45 tours le 3 novembre 72. À l'époque, elle figure sur aucun album, mais elle sera ajoutée plus tard au tracklisting de réédition d'au moins deux albums, je crois. Et puis, on la trouve également sur la plupart des compiles et des lives de Thin Lizzy. Et c'est précisément cette version de Whiskey in the Jar de Thin Lizzy que Metallica va revisiter sur Garage Inc., qui paraît le 24 novembre 1998, et dont la particularité est d'être un album de reprise, constitué de chansons qui ont influencé les membres de Metallica. Alors on y trouve bien sûr du Diamond Head, un groupe que Metallica revendique à tout bout de champ, mais aussi du Black Sabbath, du Mercyful Fate, du Lynyrd Skynyrd, et même du Nick Cave. Donc vous voyez, c'est quand même assez varié. Il y a trois singles qui seront extraits de Garage Inc., dont Whiskey in the Jar, qui paraît le 1er février 99 et qui va remporter un franc succès. Il faut dire que la reprise est extrêmement réussie. Metallica a indéniablement un talent incroyable en ce qui concerne l'art de la reprise, et Garage Inc. en est une preuve criante. Le disque est absolument génial et lui aussi va connaître un très gros succès commercial, notamment en Amérique du Nord et en Europe. En France, par exemple, il va se hisser jusqu'à la 9e place des ventes d'albums, et ça, chez nous, c'est une prouesse. Maintenant que vous connaissez l'histoire de la chanson Whiskey in the Jar, il est temps de l'écouter. Voici donc Whiskey in the Jar, version hard rock de Thin Lizzy, revisité façon évitrage par Metallica. Quant à nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un troisième épisode des Summer Sessions de Check Me Load. Profitez bien de vos vacances si vous avez la chance d'y être. Bon courage aux autres, votre tour viendra, et surtout, écoutez du métal. Salut à tous!